Voilà, bonjour à chacun. Dans notre série en cours sur le roi Salomon, la dernière fois, nous avons abordé la construction du temple. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur sa dédicace, et en particulier sur la prière faite par Salomon à cette occasion. Alors, si... Voilà, ça arrive. Merci. C'est la 11e année du règne de Salomon, le 8e mois du calendrier de l'époque, après 7 ans et demi de construction, que le temple est achevé, comme nous pouvons le lire dans ces deux versets, 1 Rois chapitre 6, versets 37 et 38, la 4e année... Au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées, et la 11e année, entendez la 11e année du règne de Salomon, au mois de Boul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit en 7 ans, précisément en 7 ans et 6 mois. Pourtant, il faudra encore attendre presque un an pour que le temple soit inauguré, pour qu'il soit consacré. En effet, nous allons le lire dans un instant, c'est le 7e mois, donc au plus tôt 11 mois plus tard. Le texte ne précise pas l'année en réalité, donc 11 mois, mais peut-être un peu plus. C'est donc le 7e mois que l'Arche de l'Alliance va être transporté dans le temple, ce qui va marquer son inauguration. On lira donc ce texte dans un instant. Pourquoi ce délai ? 11 mois, voire plus. Essentiellement pour deux raisons. Premièrement, parce qu'à la fin du gros œuvre, tout n'était pas terminé. Il a encore fallu construire le mobilier et tous les objets, tous les ustensiles nécessaires au culte. Dans le temple, les cendriers, les pelles, les coupes, les couteaux, les tasses, les brasiers, etc. Ainsi que les bassins, l'autel des sacrifices, la table des pains de proposition, les chandeliers, et j'en passe. Et nous trouvons un compte-rendu de tout cela au chapitre 7 de ce premier livre des Rois. La deuxième raison du délai, c'est à l'évidence parce que Salomon a voulu profiter d'une des grandes fêtes à l'Éternel, il y en avait 3, à l'occasion desquelles le peuple se rendait massivement à Jérusalem. Il a voulu profiter de cette occasion, d'une de ces fêtes-là, donc, pour consacrer le temple. C'est ainsi que l'inauguration du temple, sa dédicace, aura lieu le 7e mois, c'est-à-dire le mois où l'on fêtait la fête des cabanes, appelée aussi la fête des tabernacles, une des 3 grandes fêtes d'Israël. Le 7e mois, donc, le peuple monte à Jérusalem pour la fête des cabanes, mais aussi pour célébrer la construction du temple, pour inaugurer ce temple. Et c'est un moment important dans l'histoire d'Israël. L'histoire de ce peuple qui est redevenu nomade pendant quelques décennies après son séjour en Égypte et qui est maintenant sédentaire dans le pays promis. Ainsi, après le tabernacle, la tente de la rencontre qui était démontable et transportable pour coller à la vie nomade du peuple dans le désert, Israël maintenant possède un temple en dur. Un temple grandiose pour y célébrer l'Éternel. Les festivités de la dédicace du temple commencent donc par le transport de l'Arche de l'Alliance que David avait déjà en son temps fait venir à Jérusalem. Et au même temps que cette arche qui est amenée dans le temple, il y a le rapatriement du tabernacle, de la tente de la rencontre, qui, elle, se trouvait à Gabaon à cette époque. Alors on trouve l'essentiel de tout ce que je suis en train de dire au chapitre 8, au début du chapitre 8 du premier livre des Rois. J'en lis maintenant les 7 premiers versets. Alors le roi Salomon assembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des Israélites, pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les firent monter. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent du petit et du gros bétail, si nombreux qu'il ne put être ni compté ni évalué. Les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins. Car les chérubins déployaient les ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche, les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. L'arche dans laquelle se trouvaient les tables de la loi, c'est une précision qui nous est donnée 2 versets plus loin. L'arche, symbole s'il en est de l'alliance de Dieu avec son peuple, l'arche est placée dans le temple. Elle est placée dans le sanctuaire, elle est placée dans le lieu très saint. Et que se passe-t-il alors ? Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et nous lisons la suite du récit au verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. J'ai enfin bâti une résidence pour toi, un lieu où tu habiteras éternellement. » Que s'est-il passé quand l'arche a été déposée dans le sanctuaire et que les sacrificateurs ont quitté le lieu saint ? Dieu s'est manifesté. Dieu a, si on peut dire les choses ainsi, pris possession des lieux. Dieu s'est manifesté par la nuée, cette nuée qui avait accompagné le peuple pendant les années dans le désert. Que faut-il comprendre ici par la présence de cette nuée ? Il faut comprendre que Dieu a non seulement manifesté sa présence, manifesté sa gloire, mais aussi et surtout qu'il a agréé le temple construit par Salomon. C'est après cela, après que la gloire de Dieu remplit le temple, que Salomon va se tourner à ce moment-là vers le peuple pour faire premièrement une brève allocution en bénissant le peuple et puis deuxièmement une longue prière. Et c'est cette prière qui va retenir donc notre attention maintenant. Notons juste que dans son allocution qui va des versets 13 au verset 21, Salomon fait référence à son père David et à l'alliance que Dieu a conclue avec lui et sa descendance en affirmant que la parole de l'Éternel s'est accomplie par lui, Salomon, et par la construction du temple. Je lis ces versets, les versets 17 à 21. Mon père David a eu à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or, l'Éternel dit à mon père David, « Puisque tu as à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles. Ce sera lui qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a tenu la parole qu'il avait dite. « Je me suis levé à la place de mon père David. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » J'ai réservé une place pour l'arche où se trouve l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Passons donc maintenant à la prière. La prière de Salomon avec rapidement quelques généralités avant de voir quelques points plus spécifiques. Je vous rassure, elle est longue, nous n'allons pas la lire en entier. Je vous invite à le faire chez vous si vous le souhaitez. Il y a 39 versets, donc vous comprenez que ça aurait été une très longue lecture, mais on en lira quand même quelques extraits. Que dit Salomon dans cette longue prière, qui est essentiellement une prière d'intercession? Il dit beaucoup de choses sur Dieu, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Et puis il énumère 7 cas de figure bien spécifiques. 7 situations, 7 occasions où le peuple se tournera vers Dieu et donc vers le temple et où il demandera à Dieu de l'écouter et de l'exaucer. Ces 7 pétitions montrent ainsi l'usage très concret, très terre à terre du temple, de son rôle dans la piété d'Israël. Ces 7 pétitions associent ainsi le temple à la prière pour en faire, comme le dira le prophète Ésaïe, une maison de prière, une parole que Jésus reprendra dans les évangiles. Notons encore qu'à la fin de la prière, de très nombreux sacrifices seront offerts. Le chiffre est absolument énorme au verset 64. Des chiffres qui ne peuvent pas correspondre à une seule journée de sacrifice, mais très vraisemblablement à l'ensemble des 14 jours de festivité, une semaine pour la fête de la dédicace, une semaine pour la fête des cabanes, et puis pour tout le peuple qui était présent, parce qu'en effet, les sacrifices fournissaient la viande des repas pris par l'immense foule venue à Jérusalem à cette occasion. Notons enfin, après toutes ces festivités, que Dieu s'est révélé à Salomon par une nouvelle théophanie, une nouvelle apparition dont nous parlerons la prochaine fois. J'aimerais donc finir en tirant quelques lignes à partir de quelques éléments de la prière de Salomon, en particulier sur la personne de Dieu. Ces éléments nous disent la compréhension que Salomon avait de Dieu et elle confirme sa grande sagesse. Ainsi, Salomon parle tout d'abord de Dieu comme celui qui est incomparable, celui qui est infini. 1 Roi 8, versets 22 et 23, et puis verset 27. Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit « Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Puis un peu plus loin donc au verset 27, « Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Même s'il est plusieurs fois question du temple comme de l'habitation de Dieu, le lieu même où Dieu réside éternellement, c'est ce qui est dit au verset 13, Salomon sait que Dieu est bien plus grand que le temple qu'il vient de bâtir. Il sait que le temple n'est pas le lieu où réside Dieu, mais le lieu où réside son nom. C'est ce qu'il est dit au verset 29. Pourquoi ? Parce que Dieu est infini. Parce que rien ne peut le retenir. Rien ne peut le limiter, d'aucune manière que ce soit. Oui, pour cet attribut comme pour les autres, Dieu est incomparable. On peut noter ici que toute la prière de Salomon traduit cette compréhension, puisque tout au long de sa prière, Salomon demande à Dieu d'écouter ce que le peuple dira, non pas depuis son temple, mais depuis les cieux, verset 32 en particulier, et puis surtout d'exaucer le peuple, les prières du peuple, non pas depuis le temple, mais depuis les cieux. Versets 30, 34, 36, 39, 43, 45, 49. Toute la prière est jalonnée par cette compréhension que Dieu n'est pas limité au temple à Jérusalem. Salomon avait bien compris cela. Le temple était pour un temps. Pour un temps jusqu'à la venue de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, le véritable temple. Jusqu'à la venue du Saint-Esprit qui demeure en chaque enfant de Dieu pour en faire son temple. Le temple à Jérusalem n'était qu'une parenthèse dans l'histoire du salut, dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est ainsi, comme nous l'avons déjà souligné la dernière fois, que Jésus va préciser qu'à partir de sa venue, les vrais adorateurs n'ont plus besoin d'un lieu spécifique pour adorer. Parce que ce que le Père veut, ce sont de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et c'est la raison pour laquelle, quand le temple sera détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, le culte de l'Éternel ne disparaîtra pas. Et même, il s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Et depuis, sur toute la surface de la terre, et même à Nîmes, et même à la combe des oiseaux, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Notons que nous avons ici la conséquence logique de l'infinité de Dieu, qui se traduit par son omniprésence. Puisque Dieu ne peut pas être limité dans sa personne, dans le temps, dans l'espace. Cette omniprésence qui fait que nous pouvons, où que nous soyons sur cette terre, le chercher, le prier et l'adorer. Pas besoin d'aller à Jérusalem. Nous pouvons le faire là où nous sommes. Si la prière de Salomon nous présente l'Éternel comme unique et infini, elle nous le présente aussi comme celui qui non seulement tient ses promesses, écoute son peuple, mais aussi comme celui qui l'exauce, celui qui lui fait grâce, celui qui le pardonne. Cette prière de Salomon nous présente Dieu comme le Dieu plein de miséricorde, plein de compassion. Alors, vous et moi, nous sommes très familiers de ces vérités. Nous qui possédons la parole de Dieu dans son entier. Nous qui vivons après la venue de Jésus-Christ, qui nous a manifesté la compassion de Dieu dans toute sa plénitude. Et Salomon traduit tout au long de sa prière cette juste compréhension de Dieu. Voici quelques extraits de ce que Salomon dit au sujet de l'écoute, au sujet de l'exaucement et au sujet du pardon que Dieu accorde. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges dans les cieux. Tu écouteras et tu pardonneras. Si quelqu'un pèche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, si le serment a lieu devant ton autel dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu agiras et tu jugeras tes serviteurs pour condamner le coupable et faire retomber sa conduite sur sa tête, pour absoudre le juste et le traiter selon sa justice. Quand ton peuple d'Israël sera battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de ton peuple d'Israël et tu les feras revenir dans le territoire que tu as donné à leur père. Oui, Dieu, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui est le juste juge, est aussi le Dieu qui écoute le pécheur, le Dieu qui fait grâce au pécheur, qui pardonne au pécheur qui se repent. Quand vous relirez cette prière, vous verrez que c'est là du début à la fin. Salomon l'avait très bien compris, pour lui, pour son peuple. Mais qu'en est-il de nous? Avons-nous vraiment compris combien est grande la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus pour nous? Est-ce que nous l'avons personnellement accueilli dans notre vie? Peut-être avons-nous fait de grandes fautes dans notre vie, des choses dont nous ne sommes pas fiers. Peut-être même sommes-nous accablés par la culpabilité. Peut-être pensons-nous être hors de portée de la grâce de Dieu. Mes amis, si c'est le cas pour vous, il y a une bonne nouvelle. La grâce de Dieu est plus grande que le plus grand de nos forfaits. Elle peut nous atteindre où que nous soyons, quoi que nous ayons fait, si nous le demandons à Dieu, si nous le demandons sincèrement à Dieu. Chers amis, ne nous privons pas de cette main tendue que Dieu veut encore nous tendre ce matin. Ne nous privons pas du pardon qu'il est prêt à nous offrir. J'ai perdu la main. Si tu peux juste recliquer sur le diaporama, s'il te plaît. On y arrive. Et voilà. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu parce que Dieu connaît notre cœur. C'est le point suivant. Et c'est aussi ce que Salomon dit dans ses versets 39 et 40. C'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, tu pardonneras, tu agiras et tu rendras à chacun selon ses voies. Parce que toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. De la sorte, ils te craindront tous, tout le temps qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos pères. Mes amis, il n'y a rien que nous fassions, rien que nous ayons fait que Dieu ne sait pas déjà. C'est la raison pour laquelle il pourra un jour juger justement tous les hommes, parce qu'il sait toutes choses. Il connaît toutes nos motivations, il sait tout ce qui est au fond de notre cœur. Et cette omniscience de Dieu est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de craindre d'ouvrir notre cœur à Dieu, puisqu'il sait toutes choses. Puisqu'il sait ce qui s'y trouve, puisqu'il est le seul qui connaît le cœur de tous les humains. Dieu sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes poussière, Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Il sait tout ça. Et pourtant, il est prêt à nous offrir sa grâce. Et dans le sens de ce que nous sommes en train de dire, écoutons ce que Salomon dit dans sa prière à partir du verset 46, avec quelques petites coupures. « Quand ils pécheront contre toi, dit-il, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, quand ceux qui les tiendront captifs les emmèneront en captivité dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi, s'ils t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés captifs, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, leurs prières et leurs supplications, et tu leur feras droit. Tu pardonneras à ton peuple ses péchés contre toi. Oui, Dieu sait tout ce qui est dans notre cœur. Nous l'avons dit. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche point. L'apôtre Paul le dira autrement, mais c'est la même chose quand il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, malgré cette réalité, Dieu est toujours prêt à écouter les prières, les cris, les supplications des pécheurs, à plus forte raison de son peuple, et à pardonner aux pécheurs qui se repentent. Mes amis, quelle grâce incommensurable. Quelle folie que de garder son cœur fermé à l'Éternel. Si Dieu connaît les cœurs, il est aussi celui qui incline les cœurs, dit Salomon. C'est ce que nous lisons dans ce dernier extrait de la prière à partir du verset 57. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui. Afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances qu'il a données à nos pères. Que ces paroles que j'ai présentées comme une supplication devant l'Éternel soient jour et nuit tout près de l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse jour après jour droit à son serviteur et droit à son peuple d'Israël. Ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour marcher selon ses prescriptions et pour observer ses commandements. Salomon exprime ici, en tout cas dans la partie en jaune, une vérité biblique tellement importante. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls, avec nos propres forces, c'est impossible. Jésus lui-même dira, l'esprit est bien disposé, l'esprit avec un petit e, hein, avec un e minuscule. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nos bonnes intentions ne suffisent pas pour suivre Dieu et pour le servir fidèlement. Et donc, si je ne compte que sur mes propres forces pour suivre le Seigneur, pour lui obéir, pour marcher dans ses voies, alors je ferai, à n'en pas douter, l'amer constat de mes échecs répétés. Pour marcher dans les voies de Dieu, nous avons besoin que Dieu incline notre cœur vers lui. Nous avons besoin que Dieu agisse en nous. Nous avons besoin que Dieu circoncise notre cœur. Nous avons besoin qu'il crée en nous un cœur pur. Nous avons besoin qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et il faut pour cela que je le laisse agir. Il faut pour cela que je le lui demande jour après jour. On peut le dire aussi avec des mots du Nouveau Testament. Pour marcher par l'Esprit, il faut que je marche par l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et c'est Dieu qui produit en nous, dit Paul aux Philippiens, le vouloir et le faire, selon son bon désir. Chers amis, peut-être êtes-vous ce matin découragés de lutter contre le péché dans votre vie et de ne pas y arriver. Dieu désire nous aider, chacun de nous, déjà à nous relever si nous avons chuté et à continuer le chemin avec lui. Et si nous le lui demandons sincèrement, avec persévérance, il le fera, parce que sa volonté, c'est que nous marchions en nouveauté de vie, jour après jour. Chers amis, il y aurait encore tellement de choses à dire sur cette prière. Je vous invite à la découvrir dans ses détails chez vous. J'ai quand même le sentiment qu'on a, on n'a pas épuisé le sujet, mais on s'est donné à chacun de nous pas mal de grains à moudre quand même ce matin. Que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas passer rapidement, trop rapidement à autre chose, de laisser tout ça décanter au fond de nous. Prenons le temps, et nous allons prendre un moment de silence pour ça, prenons le temps de lui demander d'incliner notre cœur pour que nous puissions marcher de progrès en progrès. Ça sera pour sa gloire et ça sera aussi pour notre bonheur. Amen.